Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous. Bienvenue pour un sujet sur la gestion du para-jeu. Tout d'abord, le para-jeu, c'est quoi ? C'est tout ce qui est à côté du jeu. Aujourd'hui, beaucoup de situations où on peut jouer en situation dématérialisée, c'est-à-dire à distance. Et on a une différence avec forcément le jeu en situation où on est visuellement les uns avec les autres. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Pour ce faire, on va écouter nos deux invités que je vais laisser se présenter. Alors on a Romain McIlroy et puis Obi, aussi connu sous le nom de Renaud Gazenec. Je vous laisse vous munir de vos micros, messieurs, et puis vous présenter l'un après l'autre.
Donc bonjour à tous. Donc moi, je fais essentiellement aujourd'hui du jeu de rôle de manière dématérialisée avec un programme qui s'appelle Expérience JDR, dont le but est justement d'initier les gens au jeu de rôle via des outils numériques. Donc j'initie des gens un peu partout en France, même à l'étranger, via un outil qui s'appelle Roll20 sur lequel je suis aussi contributeur pour justement gérer toutes ces mécaniques-là à distance.
Ok, bonjour à tous, du coup moi c'est Renaud et moi je suis ici parce que je suis le développeur d'une plateforme qui s'appelle Rollisteam, qui est un logiciel concurrent de Roll20, libre, voilà, on va en parler un peu plus longuement à la suite, voilà. Mais du coup donc, je contribue à ce logiciel, je le développe, et en parallèle de ça, je participe à une chaîne YouTube, etc. etc. Donc voilà, et je participe aussi à pas mal de conventions où j'initie aussi pas mal de joueurs depuis quand même pas mal d'années maintenant. Donc voilà.
Alors je vous rassure tout de suite, on ne va pas faire un débat sur deux plateformes distinctes. J'ai choisi d'inviter deux interlocuteurs qui travaillent sur ces plateformes, soit d'ailleurs pour les développer, soit en tant que développeur un peu, mais aussi surtout utilisateur. Vous l'avez compris, Renaud a aussi toute une activité parallèle où il se sert de ces outils et ensuite il communique par différents biais, du podcast, de la vidéo, etc. Tout ça, ça crée un univers autour du jeu lui-même. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Messieurs, tout d'abord, j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de ces plateformes qui existent et comment c'est né tout ça et comment vous y êtes mis, vous.
Alors, comment est né Roll20, ça je ne peux pas trop vous le dire, parce que moi je suis arrivé, la plateforme existait déjà. Je cherchais avant tout un outil en fait, qui me permettait de jouer à distance avec des amis, hein, parce que j'ai des amis qui sont en Suisse notamment, et d'autres qui sont au Québec aujourd'hui. Donc il me fallait un outil sur lequel je puisse à la fois gérer de l'affichage, du son, des fiches de perso, des docs, etc. Et j'ai pas connu Rollisteam au début, j'ai connu Rollistic en fait, et qui répondait pas forcément à mon besoin. Derrière, j'ai connu Roll20 en fait avec ses API qui sont écrites dans un langage que je développe, hein, donc je me suis trouvé à l'aise dessus, et c'est comme ça que j'ai adopté la plateforme tout simplement et que j'ai continué à enrichir les choses.
Ok, alors pour Rollisteam, l'histoire est un peu différente. J'étais en stage après mes études d'informatique et quelqu'un a posté sur un forum Linux une demande pour porter justement le logiciel Rollistic, qui est l'ancêtre de Rollisteam. Et du coup, comme c'était sur des technos que je maîtrisais, je me suis dit, bon, allez, je vais le dépanner. Et puis, de fil en aiguille, j'ai reçu de nouvelles demandes de contributions, de nouvelles améliorations, etc. Et au bout d'un an, j'avais quand même quelque chose de pas mal. Je me suis dit, autant commencer à créer une communauté autour. Donc j'ai lancé des outils, un site web, etc. etc. Et au final, quelques années après, je me suis dit que ça serait quand même pas mal de commencer à utiliser mon propre logiciel. Donc je me suis mis au jeu de rôle. Et du coup, l'aventure a commencé là, vraiment, parce qu'en étant utilisateur moi-même de mon outil, il a avancé quand même plus rapidement et d'une meilleure façon, je pense.
D'avoir déjà un sujet qui touche directement hein, la question du para-jeu, c'est-à-dire tout ce qu'on fait pour réussir à jouer en fait dans le meilleur confort, tout ce qu'on fait pour enfin, tout ce qu'il est nécessaire de développer pour pouvoir atteindre ses fins, à savoir jouer. Et donc toi, du coup, tu as été juste contributeur dans un premier temps, mais simplement sans connaître forcément l'univers du jeu et ce qui existait autour. Et donc, du coup, tu as fonctionné autour de demandes qui t'étaient fournies sous
Ouais,
forme de cahier des charges.
sans forcément les comprendre en fait, parce que
Ouais.
je comprenais pas l'utilité qu'il y avait derrière, quoi. Donc voilà, je comprenais la demande, voilà, mais effectivement, l'intérêt ludique qu'il y a derrière, je l'avais pas, quoi.
Ok. Ok. Et donc, par contre, les joueurs étaient en capacité de te communiquer tout ça, simplement.
Ouais, parce qu'au début c'était quand même assez terre à terre comme demande, c'était pas énorme, c'est plutôt des demandes techniques, on va dire. Au
Ouais.
début il y avait quelques demandes ludiques, mais c'est resté assez vague. Mais effectivement, au bout d'un moment, ouais, j'ai commencé à me confronter à un mur en fait de compréhension entre l'intérêt ludique et la difficulté technique derrière. Et voilà, c'était.
Tu passais par quel biais pour communiquer avec ces gens? C'était que de la plateforme forum, ce genre de choses?
Ouais, principalement, ouais,
Ok, bon, ça
forum.
participe aujourd'hui hein, des outils de jeu, hein, y compris jeux de rôle forum, etc. On a évidemment une barrière hein, qui s'inscrit en termes de communication. Toi, en plus, parce que tu ne comprends pas forcément la demande initiée, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ça t'a poussé à aller jusqu'au jeu. Toi, en fait, c'est un peu la dynamique inversée de ce qui se passe souvent. C'est-à-dire que tu as été un contributeur de tout ce qui était autour du jeu, et c'est ça qui t'a amené au jeu.
Ouais, c'est ça. C'est que l'intérêt que j'avais d'abord était technique et j'avais envie de participer à un logiciel libre, quoi. Et puis du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, on va tester, quoi.
Ok,
On
ok,
va se faire
ok.
plaisir. Surtout que
Donc.
j'avais quand même pas mal de potes qui étaient aussi des rôlistes, on va dire, vétérans et qui voulaient me pousser depuis quelques temps. Donc ça m'a aussi.
Ah ouais, il y avait quand même
Oui, il y avait
une.
quand même un environnement propice,
Ok,
on va
ça
dire.
marche. Très bien. Bon, du coup, en fait, le sujet est aussi là pour parler de ce qui se développe autour du jeu. C'est-à-dire, on développe, notamment autour du jeu de rôle, particulièrement, tout un tas de mécanismes qui nous poussent à rechercher des informations, etc. Et en fait, je vois que sur le développement des plateformes aujourd'hui, on a tout un mécanisme de gens qui commencent à taper un peu dans le code, etc., pour arriver à leur fin. Est-ce que vous pouvez justement, messieurs, tous les deux, m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne sur les plateformes?
Alors, au niveau de Roll20, en fait, il y a deux aspects qu'il faut voir. Il y a l'aspect, je vais dire, fiche de perso, mécanique de jeu pure, en fait, dans lequel, en effet, vous allez pouvoir développer. En fait, il faut un certain niveau de compte, hein, parce que Roll20, contrairement à Rollisteam, n'est pas gratuit sur toutes ses fonctionnalités. Et donc, le plus haut niveau de fonctionnalité, hein, c'est un abonnement qui coûte 10 $ par mois. Voilà. Qui va vous permettre en effet de créer en fait toute une partie de script en fait avec des langages qui sont plutôt simples et courants sur le web pour créer vos fiches de perso, des mécaniques de calcul précises, d'intégration de campagnes de jeu aussi avec des stats etc. qui peuvent être faits. J'ai aussi à côté un moteur moi de script d'API notamment pour un jeu qui s'appelle Eclipse Phase parce que la création de perso est assez complexe donc je l'ai simplifié avec tout un ensemble de scripts. Donc voilà, tout ce qu'on peut un peu automatiser. Après, il y a carrément des gens qui créent des campagnes complètes qui s'intègrent, ça s'achète sur le store. Et vous avez la campagne avec toutes les maps qui sont déjà prêtes, les scripts, etc. Des dialogues même déjà pré-intégrés, de la musique, etc. Donc voilà, il y a tout un outillage qui peut être fourni, on peut manipuler vraiment l'outil à fond. Et l'avantage, c'est qu'on peut créer ouais, ses propres scripts en Node ou en JS.
Et du coup, ça décharge énormément le travail du meneur quand il est en situation d'animation de sa partie.
Complètement. Là, typiquement, sur le festival, je me fais remplacer en fait en ce moment hein, sur mon animation, ce que j'anime avec Roll20. Et le meneur, je lui ai juste filé le PDF du scénar, il a tout l'outillage. Les joueurs, les fiches de perso sont clés en main, donc on leur demande juste où est-ce qu'il faut cliquer. Et voilà, quoi. Il n'y a même pas besoin d'apprendre les règles, tout est simple. Les calculs sont déjà faits, que ce soit pour du Cthulhu, du Shadowrun. Le Shadowrun, c'est quand vous faites un lancer de dés, enfin vous faites un test quelconque, ça vous explique tout le calcul, vous avez tout le détail en plus. Ce qui fait que si vous cherchez après à comprendre pourquoi vous avez réussi ou pourquoi vous avez échoué, il y a capacité. Quoi.
Ok. Obi ?
Alors pour Rollisteam, disons qu'il y a plusieurs niveaux d'engagement. On peut soit être simple utilisateur et on va avoir accès à un outil de création de fiches de personnages qui va être aussi capable d'automatiser pas mal de soit la création du personnage, soit l'utilisation du personnage, soit les deux, la montée de niveau, etc. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut. On est vraiment sans limite dans la fiche de personnage. Pareil pour le système de dés, on peut faire quelque chose qui automatise les traitements, voilà, donc c'est assez fluide. On peut créer des scénarios, pareil, alors il n'y a pas de gestion automatique encore de résolution de combat, de choses comme ça. Voilà, c'est pas trop dans ma façon de jouer, parce que de toute façon Rollisteam est quand même à l'image de ma façon de jouer, un petit peu. Et donc je sais que c'est demandé par pas mal de mes utilisateurs, et donc ça va arriver. Je commence à mettre les premières briques dans ce sens-là. Mais sinon, pour participer, comme Rollisteam est un logiciel libre, on peut participer à un niveau bien plus en dessous, on va dire. Donc on peut aller modifier le code source de Rollisteam pour faire ce qu'on veut. Il faut avoir la connaissance quand même, parce que c'est pas donné à tout le monde de taper dans du code informatique de ce niveau-là. Quoi. C'est pas trivial, il faut avoir fait un peu des études en informatique minimum, je dirais. Je fournis un outil qui permet de designer des fiches de personnages à destination des débutants et qui permet aussi d'apprendre un petit peu la programmation. Donc voilà, et Rollisteam va de plus en plus utiliser cette technologie-là. Donc les gens qui se forment maintenant sur mes fiches de perso seront capables dans plusieurs années d'éditer le logiciel directement. Quoi. C'est un peu mon objectif aussi. Et évidemment, on peut participer en tant que traduction, écrire de la doc. Tout est libre, tout est accessible. Donc voilà, si quelqu'un est vraiment motivé et qu'il a envie de se faire son truc à lui, il peut. Quoi.
Voilà. Parce que, si je comprends bien, en fait, dans les deux cas, on a des outils d'automatisation. Pour tout ce qui est, de la dynamique un peu ludique ou non, d'ailleurs, là on est sur du jeu de rôle, donc effectivement on va parler de mécanique, de lancer de dés, on va travailler sur, des rapports compétences, attributs ou que sais-je, qui vont permettre de déterminer des situations et des résolutions qui sont déjà implémentées dans le jeu. C'est extrêmement facilitateur pour le meneur, mais finalement ma question de fond elle est plutôt de demander pourquoi on met ça en place dans du jeu dématérialisé, quand on n'en a pas besoin forcément autour d'une table.
Ouais, je pense que c'est principalement pour profiter de la machine, quoi. Profiter de la puissance de calcul d'un ordinateur et d'avoir une expérience un peu proche du jeu vidéo.
Ouais.
Aussi, il y a des gens qui recherchent ça, clairement, parce qu'ils jouent en fait à des jeux qui sont trop complexes pour jouer sur une vraie table, et ils sont incapables de jouer. Enfin, j'ai participé à une table ronde virtuelle justement avec pas mal de MJ, et ils utilisent des logiciels qui font tout à leur place, quoi. Et parce que le jeu qu'ils utilisent, c'est un jeu qui est touffu en règle, quoi. Et ils supportent plus ce jeu-là autour d'une vraie table, quoi. Ils se sentent plus capables de maîtriser ça autour d'une vraie table.
Ok. Voilà. Alors MJ, pour les profanes qui pourraient être autour de la table du jeu de rôle, c'est un maître du jeu. Tu parles de quel type de jeu en particulier? Ceux qui nécessitent beaucoup de calcul, je pense des jeux comme Mega ou autres.
Là en tête c'était principalement Donjons et Dragons.
Ouais, Donjons et Dragons qui est extrêmement cher, enfin qui a ses intérêts, etc. Mais qui nécessite effectivement beaucoup de réflexion, de calcul.
Il y a plein de règles tactiques sur des cartes, de position, de distance, de mon boule de feu, la telle effet, voilà. C'est un peu...
Alors c'est vrai que là du coup en fait on est en train de parler d'un sujet qui participe du jeu, et je pense qu'il y a des gens qui goûtent un certain plaisir en jouant à ces résolutions.
Oui,
mais on a aussi tout un public que ça commence à fatiguer, si je comprends bien.
Oui, mais clairement c'est une implication tactique en fait, c'est les gens qui aiment le jeu tactique qui vont aller vers là-dessus, et des gens qui ont une immersion plutôt liée à la narration vont peut-être pas avoir besoin de ce genre d'outils, vont juste avoir un truc pour lancer 2D et puis à la limite afficher une image et puis... C'est très bien pour eux, quoi.
Oui, mais là, on parle du coup... En fait, on parle d'un support qui est un jeu qui peut être utilisé selon les intérêts de chacun, quoi. On joue pas forcément tous de la même manière au jeu. D'ailleurs, comme avec un jeu vidéo, hein, je pense que on prend un monde ouvert comme un Skyrim, on n'y joue pas pareil chacun les uns les autres, quoi.
Mais clairement, le temps pour le maître de jeu est facilité dans la partie, mais le temps qui est consommé en amont, en fait, avant, peut être vraiment monstrueux, en fait. On ne se rend pas compte, mais déjà, moi, quand j'ai commencé à jouer sur mon logiciel, j'ai entre guillemets numérisé pas mal de mes supports, parce que j'avais l'habitude de jouer autour d'une table avec des gens, quoi. Voilà. Et quand j'ai commencé à proposer mes scénarios des gens un peu partout sur Terre, ça a été. D'habitude, j'arrive, les pieds sur la table, je sors ma pochette et puis c'est réglé. Là, faut réfléchir, faut numériser les fiches de personnages, faut leur proposer des trucs qui vont attirer leur attention dans la partie. Parce qu'ils sont devant leur ordinateur, ils sont chez eux, ils peuvent avoir envie d'écouter un podcast, de la musique à côté, étendre le linge, etc. Donc c'est difficile de les garder en place, quoi. Il faut réfléchir à ça, c'est une contrainte supplémentaire, quoi.
Ok, alors du coup, c'est là tu vas sur le territoire de la dématérialisation, effectivement, qui génère d'autres contraintes que celles qu'on a l'habitude. Enfin, c'est ce qu'on dit là d'ailleurs est tout à fait transposable aux jeux de plateau. Hein. Ces mêmes plateformes, je pense à Roll20 par exemple, sont largement utilisées dans le jeu de plateau. Et on a exactement les mêmes problématiques, je pense, de gestion de ce qu'il y a en dehors du jeu pendant l'instant de jeu. Et en l'occurrence, effectivement, vous allez m'arrêter si je me trompe, il y a un rapport au temps qui est complètement différent quand on est en dématérialisé.
Alors, je vais dire oui, complètement. Tu parles de jeu de plateau, je vais aussi parler du jeu de figurines. En fait, tout simplement, moi je suis joueur de Warhammer 40 000 en figurines depuis très très longtemps. Et en fait, aujourd'hui, j'utilise Roll20 avec des potes pour tester mes listes d'armées. Parce que c'est un plateau, c'est facile à représenter avec les couverts, etc. On a des petits pions qu'on a fait pour les figurines. Et on teste aussi du jeu de figues comme ça. Ça marche très bien.
Ça coûte pas un peu moins cher?
Ah ben...
Pardon.
Complètement. Et puis il n'y a pas le temps de peinture aussi, tu vois, tout ça. Pour revenir au démat, en fait, l'automatisation apporte deux choses. À la fois l'automatisation et la dématérialisation, mais j'ai commencé par l'auto. Il y a un gain de temps qui est non négligeable, en fait. Je vais prendre une situation concrète que j'ai vécue il y a quelques années. J'avais invité des potes pour se faire de l'éclipse phase à la maison. Et je fais, on va créer les persos et tout, on prend le bouquin de règles. On a réellement passé 6 heures pour créer 4 persos. Et là, en fait, à la fin des 6 heures, j'ai fait à mes potes, on attaque et tout. Et puis ils m'ont dit, non mais tu déconnes. Le jeu nous a déjà gavé juste en créant les persos, quoi. On veut même pas avoir la suite parce qu'on a été un peu dégoûté. J'ai automatisé aujourd'hui sur Roll20 la création de la fiche de perso avec des scripts, etc. qui en fait, c'est tout con, c'est un questionnaire que vous remplissez avec votre personnalité et qui va remplir plus ou moins vos stats en fait et vous les confirmez à la fin comme le fait un Skyrim ou un Morrowind ou des choses comme ça. C'est ce qui m'a un peu inspiré. Et bref, vous créez votre perso en 10 minutes, quoi. Et derrière, vous êtes prêt à jouer. Alors que sinon, ça prend des heures. Sur la partie des maths, il y a le rapport au livre de règles aussi qui est assez intéressant. C'est-à-dire que, comme disait Renaud, il y a la numérisation des documents qui peut être utile. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes jeux qui sont en PDF pour des questions de pratique, je vais dire. Et c'est tellement plus simple pour moi d'extraire, par exemple, une page d'équipement de mon bouquin, de la mettre en ressources disponibles en fait, sur la partie, et plutôt que de devoir faire tourner le bouquin de règles à tout le monde, quoi. C'est tiens, tu veux faire tes achats? Tiens, regarde, tu as déjà une aide de jeu avec tout ce qui est disponible. Acheter, pareil, tu as besoin d'apprendre des nouveaux sorts, des nouvelles compétences, etc. Tu as ce qu'il faut. J'ai même pas besoin de t'accompagner, tu peux être autonome sur le sujet et ça gagne en dynamisme en fait.
Ok, là tu es en train de me dire que le public est moins captif et qu'il est beaucoup plus autonome?
Complètement.
Ok. En fait. Ok. Tu crois que c'est. Enfin. Quand je dis tu, c'est vous, croyez. Vous croyez que c'est un effet qui est plus global que lié à la dématérialisation du jeu ou est-ce, enfin, en gros, ma question, c'est plutôt de vous demander, est-ce que ça peut se transposer sur table, en fait?
Moi, je constate que dans mes parties, le fait d'automatiser tout rend, entre guillemets, sans être méchant, mais stupide un peu les joueurs. C'est-à-dire que ils prennent pas le temps de s'approprier le truc, ils l'ont en clé en main et ils y réfléchissent pas. Et du coup, ça leur donne un niveau, on va dire, moins impliqué à l'intérieur dans le jeu, entre guillemets, je trouve. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... Parce que le fait de partager le livre, bah, ok, on a la stat de combien coûte machin, un couteau, machin, voilà, ok. Mais on peut aller dans les pages où ça parle un peu de l'histoire du jeu, etc. Et donc, on a envie de découvrir le livre, on a envie de le lire, et voilà, il y a un côté apprentissage. Le simple fait d'automatiser des règles de jet de dés fait que, quand le même joueur se retrouve à jouer au même jeu sur une table, bah, il est complètement perdu, quoi. Il est complètement perdu, alors qu'il a joué 4 ans à ce jeu-là.
Parce que du coup, il ne maîtrise pas, enfin, il n'a pas été éduqué aux règles, en fait.
C'est ça, ouais, ouais. Et pour revenir à ta question sur le temps, moi, je constate que le moyen de communication, qui est souvent la voix, mais avec un channel, on va dire, ou en dialogue entre deux personnes et les autres se taisent, fait que ça, c'est plus long. En fait, ça allonge le temps et c'est à peu près d'un tiers, quoi. Un scénario de 2 heures va durer 3 heures quand il est dématérialisé. De mon expérience personnelle, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté.
Tu dis 2 heures, 3 heures maximum ?
Bah, un scénario que je tiens en 2 heures montre en main autour d'une table, et je suis plutôt un métronome en termes de MJ, bah, je sais qu'il va faire 3 heures sur table virtuelle. Quoi.
Alors, là, du coup...
Tout simplement, par le problème de communication, en fait. Parce qu'il n'y a pas de communication non-verbale, on ne sait pas quand la personne elle a fini de parler... On se coupe, on se dit pardon, ok, voilà, vas-y, reprends, etc., etc. Quoi.
Donc ça, c'est une gêne aujourd'hui dans le démat. Hein.
Ouais,
complètement. D'accord.
Il y a aussi une aléa technique aussi qui peut ajouter des délais, le micro qui marche pas, la connexion qui déconne, voilà, tout ça. Ça ajoute du temps non négligeable, quoi, en partie.
C'est-à-dire que d'un côté, en fait, on a des gains sur certaines parties, mais on a de nouvelles contraintes, notamment d'ordre technique, qui apparaissent. Le fait justement aussi de se couper la parole, ça, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Concernant ce que vient de dire Renaud sur la partie rendre les joueurs stupides, je suis en phase, en fait, un peu avec lui. C'est-à-dire que, mais en fait, c'est aussi un constat que je fais, c'est-à-dire que beaucoup de gens cherchent du clé en main aujourd'hui, et il faut tout de suite, en fait. Donc bah, ce qu'apporte un peu justement le démat, c'est que ça fournit cet aspect d'un peu tout de suite. Après, concernant le fait de ne pas s'approprier le jeu, entre guillemets, directement, moi, sur le public que j'ai, je vais dire, qui est notamment enfin, de l'initiation et de la découverte de jeu, c'est pas une problématique, je vais dire. C'est justement le fait d'avoir tout de suite. Voilà. Le fait que je développe aussi énormément d'API, etc., qui explique quand vous faites un jet de dés, comment vous l'avez obtenu, ça permet aussi de comprendre et de commencer à s'approprier les règles. Après, je vais prendre un exemple d'un jeu concret. Vous prenez Polaris, avec son système de jeu qui a des calculs qui sont extrêmement complexes et qui prennent un très grand nombre de facteurs en compte. Vous mettez ça à un release débutant, à part le rebuter, en fait. Moi, j'ai déjà montré ça à des gens qui n'avaient pas pratiqué le jeu et qui pratiquaient très peu le jeu de rôle, ça leur a paru tout de suite d'être une montagne de complexité, quoi. Et en effet, le jeu a certaines lourdeurs de gameplay de ce côté-là. Donc sur des jeux à lourdeur, c'est parfois très pratique d'automatiser quand même.
Donc toi tu serais, sur l'autre question que j'avais posée, à savoir est-ce qu'on pourrait le transposer sur table, ça pourrait faire sens ?
Pour certains jeux, ça peut le faire. Okay. Très clairement, moi je suis très content aujourd'hui de ce que j'ai fait sur Eclipse Phase et mes joueurs aussi, parce que créer ses persos, ses coques, etc., c'est juste extrêmement chronophage et ça casse une dynamique, en fait. Donc il y a certaines choses qui peuvent apporter.
Je dirais que dans le jeu de rôle, il y a quand même une culture un peu du do-it-yourself, de bricolage. Et donc les gens qui ont commencé le jeu de rôle avec des systèmes qui étaient compliqués ont très vite trouvé des moyens de faire des petits fichiers, feuilles de calcul, etc. pour se faciliter la vie. Et c'est que le prolongement de ça, on arrive à avoir des outils. Maintenant, on peut se les partager, ces outils-là. Donc on peut les améliorer, on peut aller plus loin et avoir une exigence un peu plus forte. Parce que du coup, quand on fait un outil pour soi, on le comprend, on l'a designé, il n'y a pas de souci. Quand maintenant c'est quelqu'un d'autre qui doit l'utiliser, bah il faut le rendre plus lisse, entre guillemets, plus simple, plus accessible. Et voilà. Et du coup, ça demande un effort supplémentaire, mais une fois qu'il est fourni. Voilà. Mais encore une fois, est-ce que tu serais prêt à jouer autour d'une table à Polaris sans aide informatique, quoi ? Aucune.
Alors, je l'ai déjà fait. Hein.
Oui, j'en doute bien.
J'ai déjà fait de nombreuses fois, mais c'est vrai que certains, enfin, quand on regarde le nombre de calculs à faire pour tirer une torpille depuis son sous-marin, c'est des fois c'est juste déprimant pour les joueurs, quoi. Ça, et puis d'un seul coup, c'est ah non, mais en fait, t'as oublié de prendre ça en compte. Allez, il faut que je recommence tous mes calculs. Et des fois, ouais, c'est déprimant.
Bon, ce qui est dommage, parce que tirer une torpille, ça fait plaisir quand même. Ouais. Mais ceci dit, je vois ici en fait qu'on a un jeu qui n'était pas forcément facile à jouer, en gros. Qu'on a un support dématérialisant qui va permettre de faciliter le sujet et puis de presque se réapproprier un jeu qui est difficile à jouer. Alors, il pourrait y avoir débat autour de ce jeu, ce n'est pas vraiment la question. Maintenant, on a un support qui est vendu dans le commerce, qui s'appelle Polaris. Les joueurs se le sont appropriés ou pas, bref. Ça nécessite une certaine éducation. On pense du coup là, à des joueurs qui sont des joueurs un peu confirmés sur un domaine de niche qu'est le jeu de rôle. Ceci dit, si je transpose ce que vous faites là, en termes d'appropriation sur Polaris, ce que tu fais toi sur Polaris, je pense par exemple à WoW, où on avait une plateforme existante avec tout un tas de systèmes pour communiquer entre joueurs. On est là sur du MMO. Au-delà de ça, on a du TeamSpeak qui va permettre de rajouter de la voix, etc., ou du Discord, que sais-je. On a quand même aussi des joueurs qui ont choisi de se positionner sur des serveurs très RP, etc., avec des codes. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que ces joueurs vont là-dessus? Comment ces règles fonctionnent, etc. Parce que là, on est sur du dématérialisé, avec tout un tas d'outils qui vont autour. Mais il y a quelque chose qui est cherché en plus. On a une plateforme existante, il y a un manque visible, et des joueurs qui acceptent de se conformer à des règles. Qu'est-ce qui fait naître ça, d'après vous?
Je vais dire, c'est l'expérience de jeu recherchée, en fait, tout simplement. J'ai joué à WoW pendant plus de 10 ans, ouais. Notamment, sur des serveurs RP et PVP aussi. Et on va utiliser les outils et la manière de jouer, même si WoW s'est très largement simplifié au fil des années. Hein, c'est pour ça que j'ai un peu quitté aussi ce côté-là. Mais c'est... l'expérience de jeu qu'on recherche en fait. Et les outils qu'on va utiliser, que ce soit en termes numériques, vont s'adapter. On va prendre en fait parmi tout ce qu'il y a, parce que Internet regorge de ressources et d'outils à notre disposition, je veux dire, et on va prendre juste ce dont on a besoin pour avoir l'expérience que l'on souhaite, tout simplement.
Je pense aussi que la première expérience est fondatrice en fait. Des gens qui ont découvert le jeu de rôle par des chaînes YouTube de youtubeurs célèbres qui ont proposé une expérience, les gens ont envie de la retrouver et du coup se dirigent vers des outils similaires, vers des méthodes similaires et après ils vont chercher à vivre cette expérience également en fait. Et au même titre que si un jeune joueur découvre une plateforme où tout est automatisé, il va avoir envie de retrouver cet automatisme dans d'autres jeux qui vont le suivre après dans sa carrière de rôliste, entre guillemets. Et je pense que la première expérience, et après c'est à lui éventuellement de se dire ah, il y a d'autres chemins et je vais emprunter d'autres voies et aller voir d'autres styles de jeu. Mais je ne sais pas si tout le monde le fait en fait cette démarche là et voilà. Du coup, je pense que ça peut, c'est un canon en fait, et que
c'est ça. C'est soit on reste sur le chemin de la facilité, soit on cherche à évoluer en fait, tout simplement.
Après, ça appartient à chacun, mais vous raisonnez. Enfin, vous avez proposé des choses qui sont en adéquation avec des objectifs que vous portez. Visiblement, toi, Romain, tu veux faire découvrir le jeu de rôle par le biais de ces plateformes à des joueurs qui sont souvent néophytes, hein, c'est ça?
Complètement, j'ai du public, alors la majeure partie de mon public c'est du 17-25 ans, je veux dire, mais j'ai aussi un cas d'une grand-mère en fait qui voulait initier ses enfants au jeu de rôle, qui habite à 5 heures de route et qui aimerait bien jouer régulièrement avec eux. On a travaillé ensemble, j'ai adapté le jeu Petit Détective de Monstres, et maintenant elle joue avec ses petits-enfants. Quoi.
Alors du coup là c'est intéressant, qu'est-ce qu'elle cherchait cette petite dame en passant par toi, c'est à passer du temps avec ses petits-enfants?
En fait, elle est passée par moi parce que j'avais la maîtrise de l'outil numérique, ouais. Tout simplement, et donc je lui ai montré comment se l'approprier, l'utiliser de manière efficace. Mais elle, ce qu'elle souhaitait en effet, c'était partager ce moment de complicité et aussi faire découvrir le jeu de rôle à ses enfants.
C'est intéressant ça. Toi du coup, de ton côté, tu podcastes aussi? Tu fais de la vidéo?
Ouais, je...
L'objectif en communiquant tout ça, c'est quoi?
Alors il y en a plusieurs. Le premier, c'était en tant que maître de jeu, c'était d'avoir un historique de mes parties en fait.
Ouais.
parce que j'ai fait une grosse campagne sur plusieurs années où on a joué une fois par semaine, donc ça c'était assez conséquent et c'est très marrant de réécouter des parties où on s'est marré comme des baleines pendant 2 heures. Il y a 2 ans, voilà, donc ça a un côté vraiment intéressant de ce point de vue-là. La deuxième, c'était de montrer que Rollisteam existe et qu'on peut l'utiliser, que c'est un outil viable, etc., etc. Surtout qu'en général, je joue avec des versions avancées qui sont en cours de développement, donc ça présente aussi les nouvelles fonctionnalités. Donc il y a une casquette de regarder ce qui va arriver dans Rollisteam, ouais, c'est de la pub clairement. Et après le côté aussi intéressant, c'est que j'ai par exemple un de mes joueurs qui a deux filles et du coup ses filles peuvent écouter leur père jouer. Ça c'est fun, ça c'est
oui,
vraiment,
peur,
vraiment délire. Quoi.
Alors justement, parlons de tes parties sur YouTube. C'est des parties en dématérialisé ou c'est des parties sur table que tu
fais? Non, c'est toujours dématérialisé.
C'est que du dématérialisé. Ouais.
On réfléchit à peut-être faire une expérience filmée avec les copains de Progère qui font des décors, etc. Donc on essaiera de filmer peut-être, éventuellement, ça pourrait être. On y réfléchit, on se lancera peut-être un jour. Mais pour l'instant, ouais, ça reste dématérialisé. C'est vraiment pour présenter le logiciel. Donc, l'image n'est pas retravaillée. Il y a très peu de montage, etc. C'est vraiment pour montrer la partie comme elle a été jouée. Le seul montage qui est fait, c'est un traitement automatique pour enlever les silences, histoire de raccourcir un petit peu la partie. Parce que bon, sur des parties d'enquête, les gens réfléchissent beaucoup et donc ça reste silencieux.
Ouais.
Ouais, ça permet de ne pas regarder 2h30 de vidéo, mais juste 2 heures.
Les gens qui se creusent la tête.
Voilà, c'est okay. Ça. Voilà, donc ça permet de faire gagner un peu de temps aux gens, mais c'est vraiment le strict minimum, quoi.
Ok, et puis tu gardes une dynamique.
Le truc, c'est que nous, on joue en bande de potes, on n'est pas, on accepte les gens qui veulent participer pour une ou deux parties, ça, on prend, mais on est vraiment en bande de potes, et donc du coup, c'est vrai que c'est un peu différent, quoi. On se permet, c'est vraiment une bande de potes, et les gens qui nous écoutent ont peut-être l'impression d'être... parmi nous, en fait, et ça peut être. Je sais que ça a été un peu dérangeant pour des collègues de bureau, par exemple, qui ont écouté et qui se sont dit, en fait, on se sent un peu au milieu d'une proximité où on ne devrait pas être, quoi. C'était un peu, ils se sentent un peu mal à l'aise, quoi. Mais bon, après, il y en a d'autres qui suivent très bien et qui ont regardé 80 épisodes de 2h30, quoi.
Après, c'est du domaine de l'intime, je pense, parce qu'en plus, vous vivez l'expérience entre vous. En sachant que vous êtes soit enregistré, soit filmé, etc. Et que vous ne mettez pas de censure, si je comprends bien.
Non, ouais. Non, on ne censure pas. Voilà. Et par exemple, un fait marquant, c'est que comme j'ai commencé à enregistrer début 2015, quand on écoute les épisodes qui ont été enregistrés juste après des attentats, on sent que l'ambiance, elle est lourde, quoi. C'est assez... C'est un témoignage, quoi. On a une vraie sensation de voilà, moi, il y a 2 ans, voilà ce que ça m'a fait comme
ouais, ça, c'est, comme impact, c'est, quoi. C'est une source historico-sociale, en fait. On voit le comportement.
Et il y a un atout, par exemple, pour l'enregistrement au niveau du jeu, c'est que clairement, quand on commence l'enregistrement, ça notifie aux gens que la partie commence. Et c'est vraiment important parce que ça permet de faire un gain de temps. Là où, autour d'une table, les gens s'assoient. Ok, on est tous prêts, ok, on démarre. Le rituel n'est pas le même. Et donc, autour d'une table virtuelle, c'est compliqué d'avoir un rituel qui démarre la partie pour vraiment dire bon, ok, on a fini de discuter, on a fini de papoter, maintenant on joue. On joue pendant 2 heures et après on papotera après, quoi. Et voilà. Donc, ça permet d'avoir en fait un démarrage où tous les gens sont concentrés, on fait le résumé de la partie précédente, et derrière on enchaîne sur la partie du jeu, et puis voilà, quoi.
Donc déjà rien que pour gérer les joueurs qui sont chez eux et qui sont peut-être en train de secouer les nouilles, etc.
C'est ça.
Vous êtes amené à créer des mécanismes de manière à les happer, en fait, quelque part. C'est de l'hameçonnage, enfin, on est...
Ouais, c'est une sorte des coups au théâtre, quoi. C'est exactement la même chose, quoi. Ouais,
les 3 coups, ok. Toi, du coup, tu Twitch aussi
Ça m'arrive. Alors, en fait, au niveau de tout ce qui est Twitch, y a deux choses, en fait, que je fais. C'est je fais attention aussi. Hein, dans 80% des cas, je retire les vidéos du Twitch pour des raisons de censure, en fait, tout simplement, parce que vu que je m'adresse à un public que je ne connais pas, en fait, avant le début de la partie, hein, c'est au pire, on discute 15 minutes avant. Donc, je ne connais pas leurs limites, je ne connais pas leur personnalité, je ne sais pas ce qui peut les choquer, ce qui va passer, je ne connais pas leur type d'humour ou de cynisme. Donc, il faut que je sois extrêmement vigilant vis-à-vis de ça. Et si à un moment, c'est trop borderline ou que ça a même dépassé, c'est simple, j'ai un bouton très rapide sur mon clavier et ça coupe le stream, par sécurité. Voilà, c'est ça, c'est des réactions que j'ai. Après, focaliser l'attention, en effet, alors quand je joue en streamant, bah forcément je suis devant mon PC, donc il n'y a pas de souci. Quand je joue sinon en démat et que je stream pas, en fait, comme tu parles de secouer les nouilles, moi ça m'arrive carrément, j'ai un casque sans fil, je me lève, je me prépare un thé en même temps, ça peut très bien arriver, tout en gardant en fait le focus sur ce qui se passe, parce que c'est important en tant qu'MJ, mais en effet, il faut garder l'attention des gens, à réussir à la focaliser suffisamment par un discours dynamique ou des choses comme ça, ou des interactions qui vont éviter à ce que les gens justement fassent autre chose en même temps ou se déconcentrent complètement à la partie, ce qui casse d'un seul coup le dynamisme. Donc quand on sait rester concentré, parce que par le métier que je fais, je suis toujours en train de faire deux choses à la fois, donc j'ai l'habitude, donc je peux très bien me faire un thé et gérer ma partie. Oui, ça n'empêchera pas quelqu'un de commencer à jouer et tiens, ma machine à laver vient de terminer, il faut que je l'étende et je casse le rythme en fait.
En fait, si je comprends bien, on se rend compte qu'il y a une difficulté. Alors, bon, on comprend, hein, il n'y a pas le langage corporel, il y a effectivement tout un tas de métadiscours qui n'est pas disponible. Et donc, du coup, vous avez besoin de mécanismes pour pouvoir vous assurer de la disponibilité intellectuelle de l'autre à l'instant donné, quoi.
À la fois d'un mécanisme en fait pour s'assurer de la disponibilité et je vais dire de la perspicacité aussi pour comprendre des changements émotionnels intenses. C'est-à-dire que quand je fais vivre une situation, parce que je joue énormément avec les émotions, émotionnellement très intense pour mes joueurs et qu'il y a une personne qui réagit très mal, il faut que je sois en capacité de le détecter parce que je ne vois pas la personne. Et à ce moment-là, il faut que j'ai le réflexe de percevoir, tiens, attention, cette personne, il y a une situation dangereuse qui se passe, il faut que je réagisse avant que ça parte en live.
Ok, alors il y a des outils pour ça, alors il y a plein de sujets qui viennent de s'ouvrir, mais là, je veux creuser sur celui-ci. J'ai vu sur les plateformes qu'il existait des canaux de discussion spécifiques, notamment... entre les joueurs eux-mêmes, entre les joueurs et le MJ, entre le MJ et un joueur spécifiquement, s'il le souhaite, et dans les deux sens. Tout ça, c'est des outils qui sont mis à disposition, mais est-ce qu'ils sont tout le temps exploités ? Déjà, on parle d'une plateforme, donc il faut que l'utilisateur soit en compétence sur la plateforme, qu'il connaisse bien ces outillages-là.
Je suis pas forcément d'accord, parce qu'en fait, on est tellement connectés en ce moment que la plupart des gens vont utiliser des plateformes qu'ils connaissent. Donc, s'ils n'utilisent pas pour communiquer la plateforme du jeu, ils vont utiliser WhatsApp, ils vont utiliser Facebook, ils vont utiliser d'autres systèmes de communication, des SMS, etc. Et voilà, et du coup, moi je sais que pour discuter avec d'autres joueurs d'une partie, on est sur WhatsApp, on s'est fait un groupe, et ça permet de pouvoir dialoguer dessus en permanence, quoi. Et donc, comme en jeu, on n'est pas forcément tout le temps devant notre ordinateur, parce qu'on n'a pas toujours besoin de lancer les dés, on n'a pas toujours vraiment besoin d'être devant. On a le téléphone à côté et puis on peut
ça,
tranquillement.
Ça devient un outil de jeu. En
fait. Ah ouais, clairement.
Complètement.
Ouais. Ah ouais, complètement. Ouais.
Oui, donc toute extension, toute interface devient un outil ouais. Potentiel. Ce qui est intéressant. Donc du coup, on peut.
Il y a plusieurs moyens pour de communication, donc on prend le plus simple et celui à portée, quoi.
Peut-être le plus adéquat à l'instant T, en fait.
Ouais, c'est ça.
Le but, c'est d'utiliser un outillage qui soit intuitif, en fait, en termes d'utilisation, qui n'ait pas besoin d'avoir fait Sciences Po, Sciences Po, Polytechnique ou quelques grandes écoles, entre guillemets, pour comprendre comment ça marche. Et qui permettent en effet à la fois des interactions donc, entre les joueurs eux-mêmes, mais aussi avec le reste, en fait, avec le maître du jeu. C'est tout bêtement, quand vous faites un aparté en table physique, vous faites un aparté, donc vous isolez à part, etc. Là, vous pouvez faire un aparté sans que ça se voie, surtout. Et donc, dès qu'on commence à aborder des fois des sujets qui peuvent être borderline, moi, ça m'est déjà arrivé hein, de recevoir un MP en disant « Ouais, si tu peux éviter de trop pousser le sujet, je me sens pas à l'aise. » Ok. Je vois le message en instant, je sais que j'ai à rectifier le tir et je le rectifie immédiatement. Quoi. Donc ça permet ce genre de choses. Quand vous êtes autour d'une table physique, le problème c'est que tout le monde voit votre malaise.
Ouais, alors moi ça m'est déjà arrivé en table physique de recevoir un SMS d'une personne de la table et d'en prendre connaissance que plus tard. problème, c'est que l'outil, il n'est pas forcément destiné à être immédiat. Et donc, du coup, là, c'est malaise durable parce que, merde, j'ai pas vu. Donc après, il y avait le langage corporel qui a permis une espèce de compréhension. Mais justement, ça, ça veut dire que vous avez tout un tas d'outils, tout un tas de supports, etc. Il faut être extrêmement réactif quand même en termes de dynamique de meneur de jeu pour pouvoir gérer ça.
Bah, dans mon cas que je citais, c'est qu'entre joueurs, donc on n'a pas de le MJ et en dehors il fait sa tambouille et puis on le dérange pas trop. mais effectivement oui, ça demande à être vraiment hyper réactif et ouais c'est clair que c'est pas toujours évident. Surtout que comme il y a plusieurs moyens de communication, il peut penser à avoir tel moyen devant lui et pas un autre et voilà du coup ça peut on peut utiliser le mauvais et pas l'attendre quoi.
Ok, faut faire avec cette composante. Justement, tu parlais, tu as un quart d'heure visiblement, enfin tu prends un quart d'heure au début de la session. Qu'est-ce que tu fais pendant ce quart d'heure?
Bah, je discute avec les gens, déjà je leur demande une courte présentation en fait. Tout simplement, j'essaie de percevoir des composantes qui me permettent de dresser un premier, je veux dire, profil psychologique de la personne, c'est-à-dire âge, situation professionnelle, enfin activité professionnelle, qui vont me donner peut-être des indications sur un niveau d'éducation, culture, sociale, etc., qui vont me permettre de me donner des premiers éléments sur qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Déjà, dans un premier temps, je vais pas traiter de sujets très sensibles, touchant par exemple, je sais pas, de l'horrifique avec des enfants, avec une pédiatre ou une psychologue pour enfants, parce que je sais que sa réaction va être poussé d'un coup, quoi. Je vais taper sur un milieu qui va être une corde sensible sur cette personne. Donc voilà, je prends des informations qui vont me donner des premiers éléments de corde sensible. Après, ça m'est arrivé en démat, et je me suis excusé pendant des jours auprès de cette personne, de faire jouer une personne, un personnage qui avait perdu son enfant. Sauf que malheureusement, enfin dans un jeu horrifique hein, où son enfant s'est enlevé, etc. Problème, c'est que la personne avait réellement perdu un enfant dans la vie réelle, et là je l'ai perdu. Et pour la rattraper, j'ai eu beaucoup de mal.
Oui, alors bon,
c'est un cas un peu extrême quand même.
Il y a des cas extrêmes comme ça, mais voilà. Et le fait de pas connaître aussi.
Ça peut arriver. Hein,
voilà. Et le temps que je percute. En fait, par la situation dématérialisée. Voilà, donc faire une première prise de connaissance des gens me permet déjà de me définir un périmètre et un champ d'action sur lequel je peux commencer à taper avant que les joueurs aient à me notifier « Attention, t'es borderline ».
Après, ça, tu joues beaucoup sur l'émotionnel. C'est un peu, entre guillemets, on parlait de consommation hein, tout à l'heure, les gens viennent te voir, hein, etc. C'est peut-être aussi quelque chose de l'ordre de la personne aussi, de savoir vers où elle va. Quoi. Aujourd'hui, on parle de consommation, quelque part. Si tu joues comme ça, que tu twitches et que ça se voit, il y a un moment, peut-être qu'on peut savoir qu'il y a ces risques-là.
Complètement.
On parle d'autonomie dans... de plus en plus grande grâce à ces outils. Effectivement, cette expérience, elle est malheureuse. Mais... Du coup, est-ce que tu profites quand même de ces 15 minutes pour instaurer des règles en termes de conduite pendant la partie?
Oui, alors il y a des sujets très clairement, enfin il y a des actions, je vais dire, que j'interdis entre guillemets à mes joueurs, que j'auto-censure en disant que si on part sur certains domaines, je coupe direct, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui va être, des thématiques qui sont moralement, je vais dire, répréhensibles très fortement, très clairement. Voilà, si quelqu'un veut tenter une telle action, c'est pas autour de ma table.
A contrario, si j'ai bien compris, toi tu joues entre potes.
Ouais.
Et du coup, des fois,
on se clash comme c'est pas permis. Hein.
Sans aucune forme de censure, quoi.
Ah oui, oui.
Mais
oui,
malgré tout, avec une diffusion.
Oui, oui, oui. Bah, on est potes, donc on sait que c'est rien, c'est l'émotion du moment, on s'énerve parce que on gère pas les règles, on n'a pas compris les règles de la même façon, etc. Voilà, on est énervé, c'est la fin de la semaine, etc. On sait qu'on est amis et on sait que ça va pas durer. Et ça permet aussi, je pense, entre guillemets, dans ma ligne éditoriale, de montrer aussi que ça arrive dans le jeu de rôle et que c'est pas très grave, quoi. Effectivement, nous on joue entre potes, donc on sait que c'est pas grave. Effectivement, dans un cas où je joue avec des individus que je ne connais pas, y a une autocensure de base, quoi, où je vais pas avoir le même sens de l'humour, trash que je peux avoir, etc. Je sais qu'on va se limiter, on va apprendre à connaître la personne, et puis bon, si c'est qu'une seule partie, on n'aura peut-être pas le temps, mais voilà, sur du long terme, comme je joue souvent sur des campagnes assez longues, on a le temps de découvrir la personne et tester un peu. Par exemple, je sais qu'un de mes joueurs qui est papa, dans la partie, il voulait absolument pas que ses enfants de son personnage soient touchés. Bon, je dis ok, pas de souci. Ces personnages-là, je les laisse tranquilles, quoi. Voilà.
Normal.
Voilà. Okay. Parce que je sentais que c'était quelque chose de sensible. Et effectivement, c'est venu parce que j'ai appris à le connaître et que j'ai compris. Voilà. Mais
finalement, il y a pas mal de règles qui sont pas dites, en fait. C'est le premier.
Bah, c'est l'éternel contrat social, quoi. Donc, comme on est entre potes, nous, on n'a pas besoin de le clarifier. Il est un peu tacite et parce qu'on a l'habitude de jouer ensemble et on a une certaine on est en croisière, quoi, un petit peu, quoi. Et effectivement, sur des nouveaux arrivants, on va être un peu plus précis, on va un peu décrire le truc.
Toi, Romain, t'as plus de cadre à donner.
Bah, le contrat social, en fait, je suis obligé de l'afficher. Okay. Tout simplement, parce que vu que je connais pas les gens, que les gens me connaissent pas non plus, enfin, qu'ils connaissent qu'une partie de moi, je vais dire, hein, que la partie que je montre, c'est plus compliqué. Donc le catch, je préfère le définir pour éviter d'avoir, en plein milieu de partie, déjà, devoir le définir, en fait. Donc en annonçant un peu la couleur, ça permet de sécuriser, de garantir une expérience de jeu, je vais dire, plus ou moins saine à tout le monde.
Sur le respect, notamment sur le respect de la parole, parce qu'on est en démat, on est loin, on se voit pas forcément, donc il y en a un qui commence à parler, l'autre l'écrase, etc. Ça, tu mets des règles en place ou...
Alors, d'expérience, honnêtement, donc moi, pour tout ce qui est vocal, j'utilise Discord. Le respect de la parole se fait plutôt bien, en fait. Ça arrive des fois que ça coupe un petit peu, mais généralement, les gens vont attendre que l'autre est terminé ou pour réagir, donc j'ai pas trop de soucis de ce côté-là, je veux dire, et avec tout public. Donc ça, c'est plutôt sympa. Quand je parle, c'est pareil, généralement on m'interrompt pas, on attend bien ou des fois on me dit juste t'as terminé ou pour être sûr que voilà. Donc non, là-dessus, ça, les personnes sont plutôt, je veux dire, responsables et j'ai pas eu besoin pour l'instant de faire la police.
Donc ça, c'est déjà de l'automatisme et du comportemental, de la courtoisie, etc., qui se fait tout seul, quoi. Ok.
Ouais, ouais.
Donc qu'est-ce que vous avez finalement de difficile à gérer ?
Moi, c'est le temps de parole qui a été compliqué, parce que on le voit autour d'une table qui ne parle pas. On le ressent facilement. Et alors qu'autour d'une table virtuelle, on est chez soi, on est tranquille, on peut discuter, prendre du plaisir à jouer avec un personnage, et puis au final, on ne voit pas le temps passer. Et on a passé, 45 minutes avec cette personne, et on se retrouve avec très peu de temps pour jouer avec les autres. Et voilà, ça, j'ai mis en place des outils où, en fait, visuellement, sur mon écran, j'ai mon temps de parole, et j'ai les temps de parole des autres joueurs en fonction du MJ. Donc du coup, je sais qui n'a pas parlé, et à la fin, j'ai le temps de parole de chacun en secondes. Donc je sais précisément qui n'a pas parlé et qui a parlé.
En fait, toi, tu te constitues des bases de données assez riches, en fait, si je comprends bien avec ça.
Ouais, en fait, c'est un outil que j'ai sur ma chaîne, en fait, qui permet d'afficher, j'affiche le logiciel de Rollisteam, et que c'est un logiciel, je le décore pas, j'ai pas mis un layout joli, etc. Je suis pas graphiste, donc c'est pas, je suis pas capable de, j'ai la fibre artistique d'une huître. Mais du coup, pour apporter un peu de contenu quand même à l'image, j'ai un système qui affiche les avatars. Et quand ta personne parle, son avatar s'allume, il passe en couleur. Et quand elle parle pas, il est en noir et blanc. Et du coup, ce système-là, comme il reçoit quand ta personne parle et quand elle a fini de parler, automatiquement, je peux compter le nombre de secondes qu'il a parlé et à la fin, je l'affiche. Et donc donc en continu, j'ai une représentation sous forme de barre de progression. Et après, à la fin, j'ai les chiffres, quoi.
Et donc ça va te permettre, en fait, d'aller vers ceux qui...
Ouais.
Ça, c'est un vrai outil dynamique qui va te permettre, en jeu, pendant la partie, de pouvoir aller chercher celui qui n'a pas forcément trop ouvert, quoi.
C'est ça.
Ouais, on est vraiment sur de la gestion du groupe.
Oui, c'est vraiment un outil performant, parce que éventuellement à la fin de la partie, on peut se rendre compte, lui n'a pas trop parlé, donc je vais essayer de peut-être un peu mettre l'accent sur son personnage la fois prochaine, histoire d'équilibrer entre les parties, parce que comme je joue une fois par semaine, c'est... c'est très régulier, donc on peut se permettre ce genre de choses. Mais éventuellement, en cours de partie, oui, on peut ajuster aussi. Voilà.
Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, moi, je pense à mes tables de jeu habituelles. Je me dis, je ne gère pas forcément toujours ça. Je ne suis pas toujours en capacité de voir qui est vraiment plus à l'écart aujourd'hui, etc. Ouais. Et puis, il y a même parfois des joueurs qui ont envie d'être plus à l'écart. Pas forcément la patate, etc. Mais ça pourrait être un outil, quoi. Un outil que j'utilise aussi à table.
Ouais, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est plus compliqué à mettre en place, parce que là, j'ai l'outil informatique qui me dit tout. J'ai juste à récolter ces données et à les traiter moi. Le faire autour d'une table, ça demande du matos conséquent. Il faut des micros pour chacun. Ou alors quelqu'un avec un chronomètre à chaque fois, c'est un peu compliqué.
Ou s'il y a de la reconnaissance vocale, ce genre de truc, ça pourrait.
Oui, il y a moyen, mais je pense que c'est beaucoup plus complexe à mettre en place. Et puis au final, on a la sensation aussi autour d'une table. Je pense que les autres joueurs peuvent être bienveillants et dire attention, je sens que ce joueur-là n'a pas beaucoup parlé, peut-être.
Je vais le chercher, enfin, voilà. Même le joueur lui-même va générer de l'interaction vers l'autre, etc.
Ça, et puis les autres joueurs qui ne sont pas dans l'action peuvent parler avec lui aussi, puisqu'il y a plusieurs channels de communication, on n'est pas dans un dialogue. Les gens qui sont à côté de lui peuvent lui parler, essayer de l'inciter à participer à la partie, etc. Donc, voilà,
on est sur un espace social, même un jeu de plateau, ça va être la même chose. Hein. On va avoir des interactions qui vont se produire, on voit si les gens sont à l'aise, passent un bon moment ou pas, on a envie de passer un bon moment en général, même si émotionnellement, des fois, on peut se faire des parties de Cthulhu qui nous font peur, n'empêche qu'on est là pour être ensemble. Ces moments-là, ils sont visibles quand on est entre potes autour d'une table, en plus qu'on se connaît bien. Quand on est avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est plus difficile à gérer ça.
L'avantage de l'outil numérique, c'est pareil. Hein, c'est Obi a son outillage côté Rollisteam. Moi, je vois, j'ai toujours mon Discord en fait sous les yeux, donc je vois à peu près qui parle, qui parle pas. Aussi, je traite pas mal de choses dans ma tête. Et là où des choses vont se faire en termes de dynamique sociale, en présentiel physique, il faut qu'on les encadre un peu plus. Donc, des fois, oui, on tend la main des gens à certains moments pour justement qu'ils n'hésitent pas à prendre la parole. L'avantage du démat, c'est que des fois, justement, des gens ont moins peur de prendre la parole aussi, parce qu'ils sont réfugiés derrière leur écran. Donc, ça peut aider. Donc, après, en termes de temps de parole, c'est compliqué à gérer. C'est peut-être ce qui est plus dur avec la perception des émotions. Mais avec un peu d'entraînement, ça se fait.
Ok. Je vais me permettre de laisser le public s'exprimer. Avant cela, j'ai une petite chose. On a la possibilité de voir les outils à l'œuvre. Romain anime une table en ce moment même. Enfin, pendant les 5 jours, il va animer une table de jeu au pôle ludique où on voit les outils à l'œuvre. Alors bon, ce sont des parties qui ont cours, hein, donc faut pas non plus trop gêner les joueurs. Mais vous aurez l'occasion de pouvoir voir le truc en action si ça vous intéresse. Il nous reste 5 petites minutes. J'ai été un peu court sur ce coup-là. Est-ce que certains ont des questions parmi vous? Je suis désolé, je vois rien, j'ai un projecteur dans les yeux, c'est une véritable horreur. Ah, si, visiblement.
Bonjour. Ce serait pour savoir si vous avez des conseils pour la création de cartes sur Roll20 notamment ou sur Rollisteam.
Alors, j'entends très mal. J'ai beaucoup de bruit derrière aussi. Donc.
Est-ce que vous auriez des conseils pour la création de cartes sur Roll20 ou sur Rollisteam?
Le conseil que j'ai donné, c'est laisse parler ton imagination, en fait, tout simplement. C'est fais quelque chose qui te plaît toi avant tout, parce qu'il faut être fier de son travail quand on crée. Et après, aussi fais des playtests des fois ou montre tes cartes à des potes ou voilà, disant qu'est-ce que t'en penses, à quoi ça te fait penser, voilà. Mais là, pour en termes de mécanique technique. Je pense qu'on peut en discuter en dehors de là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Après, si c'est l'aspect créatif, fais-toi plaisir, quoi.
Pas mieux.
Je dirais même, n'hésite pas à demander en fait. Un peu comme Obi ici qui a participé sur des forums à un travail pour des rôlistes alors qu'il n'était pas lui-même. On peut tout à fait imaginer que des créas soient en demande. Moi, je me souviens l'an dernier, j'avais eu un graphiste qui avait eu l'occasion d'intervenir sur une table ronde et qui disait l'un de ses plus grands plaisirs, c'est de générer des cartes, en fait. c'est de produire des cartes pour les joueurs et de les voir utiliser derrière et de voir les joueurs s'amuser avec. C'est couillon, mais effectivement, il peut y avoir des gens qui ont plaisir à faire ça, quoi. Une autre question ?
Il y en a une devant.
Bonjour. Donc, il y a un petit peu plus d'un an, un gros sujet était sorti, c'était la X-Card dans le milieu du jeu de rôle. Et je voulais savoir comment vous pouviez la gérer, puisqu'on a parlé des malaises tout à l'heure.
Honnêtement, elle se fait tout simplement. Il y a des canaux de discussion privés. Ça permet à tout moment de discuter d'un sujet sensible, en fait. Et quand il y a un point d'alerte à remonter, un simple MP envoyé au MJ. Et moi, sur Discord, je suis vigilant à tous les messages que je reçois. Donc pareil, on peut aussi mettre un message privé sur All20. Donc il y a peu de chances que je le loupe. Donc s'il y a un point sensible, il suffit juste de me le notifier. Même des fois, je dis, tu m'envoies juste un point d'exclamation, en fait. Et ça veut dire que j'ai touché une corde sensible.
Du coup, dans Rollisteam, c'est pareil, on peut communiquer avec le MJ directement. Les joueurs ont la possibilité de mettre une image à tout moment, donc le groupe peut se décider et dire, telle image, ça représente une X-card, et on a du coup l'action de vraiment faire apparaître quelque chose. Du coup, ça sera visible pour tout le monde, donc c'est peut-être pas l'objectif, mais voilà, il y a plusieurs moyens, soit par MP direct avec le maître de jeu, soit quelque chose de plus conséquent, on va dire, de plus visible. Voilà, c'est tout un panel à vous de choisir, quoi.
Moi, je vais te remercier pour ta question, parce qu'en fait, elle est plutôt pertinente. C'est-à-dire que là, tu parles d'un système qui n'est pas forcément un système de jeu lui-même, mais qui est un système annexe au jeu, qui nécessite des règles. Et donc une acclimatation ou une éducation des joueurs à ces règles. L'X-Card, c'est quoi ? C'est un système, hein ? C'est un outil à notre disposition. Le seul sujet, c'est que tout le monde en ait bien la maîtrise en amont. Donc finalement, de bien expliciter de l'existence de ce possible, qui est un possible de sécurité, hein, simplement. Alors, ça existe beaucoup dans le monde du GN, moins dans le monde du jeu de rôle, c'est peut-être un peu dommage. Quand on entend Obi nous parler de ses parties, peut-être effectivement que s'il y a des joueurs jeunes face à ces humours un peu corrosifs, il serait temps de le faire, ce genre de choses. Mais effectivement, ça me permet de clôturer le sujet en parlant de ce parajeu qui fait partie du jeu et qui fait partie des règles, en fait. Donc merci. On va clôturer ici, parce que je pense que la place va être prise dans quelques instants. Donc merci à vous. Je vous invite en tout cas à faire un petit tour au pôle ludique. On a plein de matos, plein de bénévoles, le cœur sur la main et le jeu sous la main aussi. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Ils sont là pour vous.
Je peux faire des démos de Rollisteam aussi. Hein. J'ai un PC, donc pas
trop. Alléluia, ils sont deux. Merci à vous.
Merci.
Merci.